Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, un rapport de l'ONU met en évidence les conditions de travail dangereuses des travailleurs du secteur de l'assainissement dans beaucoup de pays en développement. Au nord du Mali, des enfants retrouvent le chemin de l'école grâce aux Nations Unies. L'Union Postale Universelle va appuyer des services financiers numériques dans 8 nouveaux pays. Et en dossier, alors que nous marquons aujourd'hui la journée mondiale du diabète, une experte de l'Organisation Mondiale de la Santé nous explique une nouvelle initiative pour améliorer l'accès à l'insuline. Les conditions de travail des travailleurs du secteur de l'assainissement dans nombre de pays en développement sont indignes et dangereuses. C'est ce que met en évidence un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONG WaterAid. Le rapport est publié à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes le 19 novembre. Jérôme Longuet nous en dit plus.
Le document réalisé par l'ONU et ses partenaires révèle que la plupart des travailleurs du secteur de l'assainissement se trouvent dans l'économie informelle, privés de protection sociale et de droits. Il montre que jusqu'à présent, des efforts limités ont été consentis pour comprendre leurs problèmes ou documenter les bonnes pratiques et élaborer des réglementations en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Le rapport s'inquiète aussi du fait que les travailleurs de l'assainissement, qu'ils nettoient les toilettes, curent les égouts ou fassent fonctionner les usines de traitement des eaux, sont au quotidien exposés à de très dangereux agents pathogènes fécaux et d'importants risques chimiques ou physiques. Le document s'appuie sur une étude consacrée aux travailleurs de l'assainissement menée dans 9 pays en développement, à savoir l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, le Burkina Faso, Haïti, l'Inde, le Kenya, l'Ouganda et le Sénégal. Le rapport recommande notamment de réformer les législations et réglementations afin de professionnaliser la main-d'œuvre du secteur de l'assainissement. Il incite à adopter des directives opérationnelles pour évaluer et maîtriser les risques professionnels. Le rapport engage enfin les gouvernements à ratifier les conventions de l'OIT concernant la santé et la sécurité des travailleurs du secteur de l'assainissement et à les appliquer.
L'Union Postale Universelle a annoncé cette semaine qu'elle allait appuyer des projets de services financiers numériques avec les opérateurs postaux dans 8 nouveaux pays, dont l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Ces projets permettent de profiter du vaste réseau des postes pour étendre l'inclusion financière de centaines de millions d'adultes à travers la planète qui n'ont pas accès aux services financiers formels. Les précisions de Youssouf Sy, responsable du mécanisme de l'Union Postale Universelle pour l'assistance technique à l'inclusion financière.
L'inclusion financière est destinée aux populations vulnérables et aux entreprises qui n'ont pas accès aux services traditionnels. Et donc, l'accès à ces services financiers permet à ces populations de répondre à leurs priorités quotidiennes, de mieux se préparer aux imprévus et de mieux planifier et d'investir. Et donc, l'inclusion financière a un rôle très important pour que ces personnes-là vivent correctement au jour le jour et aussi planifient pour mieux profiter des opportunités. Et la Poste, au vu de son expérience, au vu de son réseau et au vu de la numérisation de ses services, entend contribuer à l'inclusion financière. Et l'UPU, grâce à son réseau de 192 membres et aussi à des partenaires comme la Fondation Gates et Visa, entend soutenir les postes dans la démarche de numérisation. Parce que sans cela, l'inclusion financière ne va pas avancer aussi vite. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des services financiers formels. Ce sont souvent des personnes qui vivent dans des zones reculées, qui n'appartiennent pas au système traditionnel. Et donc, il faut trouver des outils innovants pour répondre à leurs besoins.
Au nord du Mali, les enfants de Koigouma retrouvent le chemin de l'école. Grâce au soutien de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 3 salles de classe ont été construites. Dans ce village de la région de Tombouctou, 2000 personnes sont revenues il y a quelques mois du camp de Mbera en Mauritanie. L'ouverture de cette école permettra à des centaines d'enfants de reprendre leur scolarité, arrêtée depuis bientôt 6 ans. La correspondance de Karim Traoré de Mikado FM.
C'est un nouveau pas vers le retour à la normale à Koigouma. Le village situé à 55 km au nord de Gundam a désormais une école construite par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec l'appui de la MINUSMA. Hamzata Ag Mohamedou est le seul enseignant dont la nouvelle école dispose. À son avis, ses classes constituent ce qu'il y a de meilleur pour son village.
Donc c'est aujourd'hui en réalité qu'on a ouvert totalement l'école. Parce qu'on a eu des locaux vraiment dignes de ce nom. Les élèves peuvent être à l'aise dans les tables, ils peuvent être à l'aise dans les classes. Aujourd'hui que les populations sont revenues, nous pensons que toutes les activités vont reprendre.
Permettre à l'école de fonctionner à nouveau à Koigouma était également le souci de la MINUSMA et du HCR. En y accueillant en mai dernier les 2000 réfugiés rapatriés, les deux s'étaient engagés à leur apporter un soutien pour le bon fonctionnement des services sociaux de base. La MINUSMA et les HCR travaillent ensemble à favoriser le retour des réfugiés maliens, estimés à plusieurs milliers au Burkina, au Niger et en Mauritanie. L'ouverture de cette école à Koigouma, la réhabilitation des habitats et l'octroi de cash en sont des signes tangibles.
C'est la journée mondiale du diabète. Cette maladie chronique apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. 422 millions de personnes dans le monde sont diabétiques et cette maladie pourrait devenir la septième cause de décès dans le monde d'ici 2030. Au micro d'Alpha Diallo, le docteur Gauchka Roglic, experte en diabète à l'OMS, explique cette nouvelle initiative.
Message et courage, tout va s'améliorer. On est sur une bonne voie, mais il va prendre un peu de temps parce que l'accès aux médicaments, c'est toujours un problème multifactoriel. Au niveau de pays, côté taxation, côté impôts, côté importation, aussi côté des gens qui payent de leur poche, qui n'arrivent pas à payer pour leur traitement. Ça, c'est un bon pas et vu que la thème est en fait la famille et diabète, on espère que cette préqualification d'insuline sera un chemin pour diminuer l'effet financier que le diabète a sur les familles.
En fait, qu'est-ce que ces programmes de préqualification pour l'insuline va changer par rapport aux malades du diabète?
Le programme de préqualification, c'est le programme qui était introduit pour les maladies transmissibles d'abord, surtout le VIH, le paludisme, la tuberculose, et c'était en fait soutenu par le Fonds global. Et on est en train de faire une expansion dans le domaine des maladies non transmissibles, où c'est un peu plus difficile que les médicaments pour la tuberculose ou VIH, parce que c'est des produits biologiques, alors ça c'est une nouvelle expérience dans cette processus de préqualification. Et alors, c'est à producteurs, les manufacteurs, d'appliquer pour ce programme. C'est une sorte de garantie que leurs produits, en fait, agissent comme il fallait agir.
Est-ce à dire qu'on peut s'attendre à ce que le prix de l'insuline baisse? Parce que ça a souvent été une barrière pour certains malades.
Oui, c'est exactement pour ça que cette idée de prendre insuline dans ce programme de préqualification, c'est en fait un effort de baisser les prix. Le marché actuel est dominé par un nombre très, très limité d'industries et il gouverne les prix, il décide les barèmes. S'il y a plus de compétition, comme c'était l'exemple des médicaments pour le paludisme, le VIH, l'ouverture de marché aux autres producteurs qui fournissent des produits de bonne qualité, on attend que le prix va baisser.
Au-delà de ce programme de préqualification, c'est-à-dire qu'est-ce que l'OMS va faire pour accompagner surtout les pays pauvres, notamment en Afrique ou en Asie, par rapport à ce programme?
On a les documents normatifs sur les diagnostics, sur le traitement. Alors, pour les pays qui ont des ressources, on a des recommandations, on a développé les algorithmes pour le traitement, comment utiliser l'insuline. On va travailler dans les pays dont le niveau de, pas la santé primaire, mais le niveau un peu plus haut des cliniques de référence pour augmenter la capacité de personnel de gérer le diabète traité par l'insuline. Alors, soit type 1, soit type 2, parce que le niveau de santé primaire, ça c'est un peu compliqué. L'insuline, c'est un médicament qui a des problèmes potentiels avec le dosage. Il faut alors former les gens qui vont s'occuper des patients qui reçoivent l'insuline. Alors ça va partir en parallèle avec ce programme.
Une étude de l'OMS montre qu'entre 2016 et 2019, 24 pays de 4 continents ont montré que l'accès est seulement disponible pour 61% et que dans certains pays, certains font même une ration, c'est-à-dire ils sont obligés de diminuer la dose d'insuline. Vous l'expliquez comment?
C'est tout simple. Dans beaucoup de pays en Afrique, les gens sont obligés de payer de leur poche pour l'insuline et pour les autres traitements. S'ils n'arrivent pas à payer le prix, ce qu'ils font, c'est de diminuer leur dosage d'insuline pour que le flacon dure plus longtemps.
Et pour quelles conséquences pour leur santé?
Les conséquences, ça varie. Ça peut être la mort. Dans les pays riches, par exemple les États-Unis, il y a des rapports dans les journaux que les décès des gens qui n'avaient pas la possibilité de payer pour leur insuline, ils sont décédés. Dans les pays en Afrique, ça arrive certainement aussi, que les gens n'arrivent pas à payer parce qu'ils n'ont pas de sous. Ils diminuent la dose. Une conséquence, c'est la mort. Mais l'autre conséquence, à long terme, c'est une mauvaise contrôle de glycémie et les complications. qui baisse l'espérance de vie significativement.
Voilà la fin de ce journal de Nuit Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.